Que réclame le peuple ? Ce n'est point l'aumône, ce n'est point le patronage, philanthropique ou religieux. Ce n'est point même du pain. Ce qu'il veut, c'est sa place au foyer de la grande famille. C'est la reconnaissance de son droit formel à la participation des affaires publiques. Personne plus que nous ne désire l'intervention du prêtre dans les questions d'émancipation qui soulèvent aujourd'hui les masses populaires. Mais cette intervention doit être conforme au véritable esprit chrétien. Éditorial de Philippe Buchez dans l'Atelier, en juillet 1845.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Le 19e siècle a été le siècle des révolutions. Révolution politique, mais également révolution économique et sociale. En effet, la révolution industrielle, qui se développe dans une très grande partie de l'Europe, bouleverse les habitudes sociales de la société d'Ancien Régime. La question ouvrière devient une question fondamentale qui se pose en Europe à partir des années 1830. Or, cette révolution industrielle, cette question ouvrière, a donné naissance à des idéologies extrêmement importantes à l'échelle du siècle. Du côté du socialisme, des ouvrages capitaux ont vu le jour, comme par exemple le Manifeste de Karl Marx ou Le Capital en 1867. Autre ouvrage qui voulait marquer son camp, Pierre-Joseph Proudhon, dans Qu'est-ce que la propriété, qui attaquait frontalement la question religieuse. Il écrit « Dieu est le mal, il faut remplacer la notion de religion par celle de justice ». Ainsi, la question religieuse et la question sociale devenaient extrêmement liées. Il s'agissait, pour le monde catholique, de trouver lui aussi une réponse aux questions sociales et économiques qui voyaient le jour avec la misère et la révolution industrielle. Comment répondre aux nouveaux besoins d'une société qui voyait émerger en son sein un groupe social, jusque-là relativement peu important, mais qui posait des questions autour de l'évangélisation, autour de la misère, autour du bien-être des ouvriers européens. Les catholiques durent d'autant plus réfléchir à ces questions que le monde socialiste voulait à la fois modifier la société et éventuellement s'attaquer également à la religion de manière révolutionnaire, comme le montre l'hymne composé et intitulé « L'Internationale ». Quelques grandes figures du catholicisme ont donc pris à bras le corps cette question ouvrière. Tout d'abord, l'abbé Félicité de Lamennais. Dans le dernier numéro du journal L'Avenir, le 15 novembre 1831, il lance un appel aux catholiques, par-delà les frontières, afin qu'ils s'engagent dans trois domaines : la défense des grandes libertés de l'individu, la décentralisation politique et la constitution de moyens pour améliorer le sort des classes laborieuses. Mais son libéralisme politique le fait fort mal voir en cour de Rome et Grégoire XVI condamne le journal pour son libéralisme par l'encyclique Mirari Vos du 15 août 1832. Mais d'autres catholiques vont reprendre le flambeau allumé par Lamennais. Philippe Buchez, qui vient du socialisme saint-simoniste au catholicisme au début des années 1830, est sensible aux idées socialistes. Et il prône véritablement les débuts d'un catholicisme social, comme nous l'avons lu en introduction de notre émission. Un peu plus au nord, dans la Belgique récemment indépendante, Édouard de Pétiot, dans le paupérisme en Belgique, défend lui aussi la constitution véritablement d'un grand catholicisme social qui puisse répondre, dans un pays comme la Belgique, à une industrialisation qui est de plus en plus rapide. De même, en Allemagne, des religieux entrent dans la lutte en faveur du monde ouvrier. C'est le cas, par exemple, du père Adolf Kolping, qui, né près de Cologne, ordonné en 1845, fonde l'année suivante un premier foyer d'ouvriers et, une fois devenu vicaire de la cathédrale de Cologne en 1849, fédère les diverses associations ouvrières dont l'objectif est de former des ouvriers chrétiens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. L'épiscopat ne reste pas totalement en dehors du mouvement, même s'il est né en dehors de lui. En 1838, Monseigneur de Croix, cardinal archevêque de Rouen, s'oppose au principe du travail des enfants. En 1843, Monseigneur Affre, archevêque de Paris, critique les effets d'une économie libérale sans contrôle. Entre 1837 et 1841, son homologue de Lille, Monseigneur Belmas, publie une série de lettres pastorales appelant à une action déterminée afin d'améliorer les conditions de vie des ouvriers du diocèse. Enfin, dernier exemple, dans son mandement de carême 1842, le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, regrette vivement que l'homme soit réduit au rang de machine. L'archevêque écrit « Qu'est-ce que l'homme pour la cupidité ? Rien d'autre qu'une machine qui fonctionne, une roue qui accélère le mouvement, un levier qui soulève, un marteau qui brise la pierre, une enclume qui façonne le fer. Qu'est-ce que le jeune enfant ? Elle n'y voit qu'une pièce d'engrenage qui n'a pas encore toute sa puissance. Voilà à ses yeux toute la dignité de la nature humaine. » De même, dans le monde politique, certains élus s'emparent de la question ouvrière au nom de leur foi chrétienne. C'est le cas, par exemple, du député légitimiste Armand Demain, qui est élu député d'Ille-et-Vilaine en 1849 et qui est à l'origine, au cours de la Deuxième République, d'une série de lois sociales sur les contrats d'apprentissage, sur les logements insalubres, sur les caisses de retraite, sur les assistances hospitalières et judiciaires. De même, il y a, de la part de Frédéric Ozanam, un véritable cri du cœur pour faciliter les fondateurs de la Société de Saint-Vincent de Paul en 1833. Elles sont chargées de soulager les misères du monde ouvrier, ce qui signifie qu'il faut aussi, à ses yeux, se rallier au système d'une démocratie politique à laquelle le peuple pourrait prendre finalement sa part. Il écrit « Aller au peuple, c'est à l'exemple de Pie IX, s'occuper de ce peuple qui a trop de besoins et pas assez de droits, qui réclame une plus grande part raisonnable dans les affaires publiques, des garanties pour son travail, des assurances contre la misère, qui sans doute suit de mauvais chefs, mais faute de trouver ailleurs de bons. Passer au peuple, ce n'est pas le faire le jeu des révolutionnaires, mais passer au service des masses en y comprenant celle des campagnes aussi bien que des villes. » Frédéric Ozanam sera effectivement un des pionniers de cette démocratie ouvrière et catholique et de ce socialisme catholique. Mais il sera déçu par le fait que Pie IX n'aura pas la volonté de soutenir une véritable démocratie politique et donc s'en éloignera progressivement. Autre grand personnage de ces débuts du catholicisme social, c'est Lacordaire, qui, entre avril 1848 et janvier 1849, anime le journal L'Ère Nouvelle, qui défend le principe d'un vrai catholicisme proche des ouvriers en souffrance. Donc, il y a véritablement une ébullition qui va devenir d'ailleurs européenne, car il n'y a pas que la France, bien sûr, qui compte des expériences de catholicisme social. Citons les expériences allemandes extrêmement riches, avec Mgr Emmanuel von Kettler, évêque de Mayence de 1850 à 1870, qui publie « La question ouvrière et le christianisme » en 1864. Il écrit dans cet ouvrage « Que le riche vole ce que Dieu a destiné à tous les hommes ». Certes, il rêve d'un retour aux corporations médiévales, idée quelque peu surannée à ce moment-là, mais il défend aussi l'intervention de l'État afin de limiter le temps de travail, imposer le repas dominical, organiser une participation ouvrière au bénéfice des entreprises et soutenir financièrement les femmes obligées de rester au foyer. De même, à Vienne, Joseph Schreier publie en 1884 « Le clergé et la question sociale » où il s'en prend à un capitalisme sans Dieu. En France, les années 70 sont marquées par les interventions tout particulièrement d'Albert Demain et René de la Tour du Pin, qui fondent, le jour de Noël 1871, les cercles catholiques d'ouvriers. Lors d'un discours, au moment de la troisième assemblée de l'œuvre des cercles en 1875, Demain présente l'état d'esprit qui les préside. Le bon sens et l'observation des faits m'ont appris qu'il y a des classes supérieures aux autres et que cette inégalité même est une condition de l'ordre social. Mais la religion m'enseigne que la supériorité des uns leur crée envers les autres des devoirs particuliers que ceux qui sont en haut ont charge de ceux qui sont en bas, charge leur âme, charge leur intelligence, charge de leur corps. Il y a dans ce texte de Albert Demain une vision sans doute très paternaliste où les classes supérieures doivent s'occuper par esprit de charité des classes inférieures. Mais il y a en tout cas aussi une attention certaine envers cette question ouvrière qui deviendra de plus en plus prégnante dans la société de ce temps. Ces efforts seront couronnés en 1891 par l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Et d'ailleurs, on peut tout de même se demander si dans sa dernière encyclique, le pape François n'est pas tout simplement aussi dans la continuité de ce grand catholicisme social.